Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de la France qui dit non aux messageries étrangères. On va parler de Meta qui invente le traducteur universel. Elon Musk qui insulte ses annonceurs. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja. Nous sommes en décembre 2023 et c'est l'épisode numéro 542. Je suis très heureux de vous recevoir tous et toutes aujourd'hui avec deux co-animateurs de talent et de charme et de technologie. On a Cédric Deluca qui est juste là avec sa caméra qui lui zoome dessus et qui fait des effets spéciaux. Incroyable. Bonjour Cédric. Et on a Corben également, qui a une caméra qui... Alors, elle, la sienne, elle ne fait pas des zooms, mais elle fait aussi des effets spéciaux. Évidemment, auditeur, vous ne pouvez pas constater toutes ces merveilles, mais je vais vous le narrer. Quand ils font genre des pouces vers le haut, ça fait des pouces. Quand ils font les cornes du rock, là, ça fait des effets spéciaux incroyables. Ils sont sur Mac, ces garçons. C'est ça. Pour ça. Ils sont beaux, vos Macintosh, vous êtes contents?
Ouais, ça va.
MacBook Air M2 pour moi.
Et ça bien. Mais il moi, est très. Il faut le jeter à la poubelle, M2. C'est le M3
maintenant. C'est mieux, moi je suis M3.
M3.
Oui. Non, il n'y a pas de MacBook Air, mais quand même.
Eh ouais, ouais. Mais moi c'est le R, je veux pas le Pro, c'est trop lourd, tout ça.
Ah, d'accord.
J'ai pris l'iMac, moi.
T'as pris un iMac.
L'iMac M3.
D'accord. Ouais, M3. Ouais, alors est-ce qu'avec un M3, tu sens une différence phénoménale avec ton ancien processeur?
Bah, j'avais l'iMac 27 Intel. Pouces, Intel.
Voilà. Ah, oui, sens, alors...
ah oui, alors.
Je sens
du
une
coup,
différence. Ouais. Sauf, effectivement, là, si je peux me plaindre un peu, c'est que sur certains outils, certains logiciels, c'est vraiment la merde. Quoi. Ça plante, ça marche pas bien, ça rame, ça bouffe tout le CPU.
Ah, mais parce que toi, tu utilises des petits trucs secrets de développeurs indépendants, tout ça, toi.
Ouais, c'est souvent des logiciels open source, des trucs qui sont pas optimisés. Donc là, je suis obligé de trouver des alternatives pour certains de mes outils. Mais bon, globalement, ça va, quoi.
Et ton Intel, du coup, en passant tout Apple avec des processeurs fabriqués par Apple, tu l'as jeté à la poubelle, tu l'as jeté dans la décharge, tu l'as même pas revendu, tu l'as pas donné, ça vaut plus rien, c'est fini.
Non, je le garde. Je l'utilise.
Pour le cas où. Très bien, tu recycles. C'est très bien. On a un sujet sur le recyclage d'ailleurs aussi. Un grand merci aux patriotes qui soutiennent l'émission. Je dis un grand merci. On sent que c'est Noël qui arrive et qu'il y a des frais parce qu'il n'y a pas de nouveaux patriotes cette semaine. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent généralement, mais également merci aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous deux de vous être responsables de cet épisode. Hein, c'est à cause de vous. Et merci aussi à tous ceux et toutes celles qui sont patriotes, qui soutiennent l'émission en général, qui vont sur patreon.com/rdvtech et qui envoient des petits sous-sous, comme on l'entendait dans la chanson la semaine dernière. Ah oui. Patrick, il aime les sous-sous.
Les sous-sous, ouais.
C'est ça. Justement, à propos d'épisode de la semaine dernière, Erratum. Je fais un Erratum. Quand je me trompe, je l'avoue. Je l'avoue. Je le dis, je corrige.
C'est nouveau, quoi.
Alors, ça m'arrive pas souvent, c'est pour ça, t'as l'impression que c'est juste pour ça, c'est que j'ai très très souvent raison. On ne dit pas altruisme effectif, on dit altruisme efficace. On dit altruisme efficace. Et le plus drôle, c'est que quand je parlais d'altruisme effectif, enfin efficace, la semaine dernière, j'avais le site de l'altruisme efficace dans les liens de l'émission. Et je ne l'ai simplement pas lu. Enfin, l'altruisme efficace en français, il y a un site qui est dédié à ça. Et je ne l'ai juste pas lu, en fait. Donc, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas regardé, il était juste devant là. Vous savez, c'est le stress de tout faire en même temps, tout gérer, YouTube, machin. Ah, on est en live sur YouTube, je vous ai dit. Twitch, OBS, les podcasts. Et donc, ça m'a conduit à faire une erreur presque impardonnable. On dit donc altruisme efficace et pas altruisme effectif. J'espère que vous vous en souviendrez. Autre chose que que je voulais signaler. Je voulais signaler que Suno, l'outil de création de musique dont je parlais, de musique par IA, dont je parlais la semaine dernière, a été sans doute l'un des plus gros succès de l'histoire du podcast, parce que vous avez été très nombreux à aller jouer avec. Peu de gens savent à quoi ça serve encore. Hein, on n'a pas trouvé d'utilisation vraiment utile, mais vous vous êtes beaucoup amusé avec. Si ça n'est pas encore le cas pour vous, Suno.ai, vous pouvez aller le checker. Tu connais ça, Corben, Suno.ai?
Ah bah oui, bien sûr que je connais. J'en ai fait un article il y a au moins des siècles. Ouf,
des siècles au moins, très bien. Donc en termes de temps de l'IA, non, ça veut dire que c'était il y a 3 jours, quoi.
Pour c'est faire des raps sympa. Et tout.
Ouais, c'est très cool. Très bien. J'en ai utilisé dans le rendez-vous tech, dans le rendez-vous jeu. J'ai bien reçu le message, trop c'est trop, un peu c'est bien, trop c'est trop, c'est je ça. N'en referai pas. Avant un moment.
Non mais tout ça pour faire des petites jingles, ça peut être pas mal, tu vois. Sur l'avocat du diable, des trucs comme ça.
Pas bête, oui, mais ils sont un peu longs, donc on attendra que ça se soit plus customisable.
Est-ce que dans le prompt, parce que, tu vois, j'ai pas essayé, mais est-ce que dans le prompt, tu peux lui limiter la durée, tu vois, genre
j'ai pas
que le refrain de...
Peut-être. Hein. Il faudrait voir, il faudrait tester ça. Mais on va pas le faire maintenant. Surtout que prompt engineer sur Suno. La dernière fois qu'on a fait des petits trucs avec Suno, les auditeurs qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière se souviendront qu'il y avait une chanson absolument déchirante sur la maladie des enfants. Voilà.
De Patrick.
Alors, j'aurais dû écouter l'IA qui me prévenait. J'aurais dû, parce que tout était là, tout était noir sur blanc et audio sur silence. Les enfants malades, le désespoir, la tristesse. Et oui, 2 jours après que l'IA ait tenté de me prévenir que les enfants pouvaient être malades, mes enfants sont tombés malades et merde totale depuis une semaine. On pense que c'est le Covid, on n'est pas sûr, mais on pense. Le petit avait 39 de fièvre, il était tout fébrile et tout, c'était déchirant. Donc, la leçon de tout ça...
Et là, tu t'es dit, ah mince.
Mais c'est ça, la leçon, c'est qu'il ne faut pas ignorer... C'est ça, l'IA est déjà là. Je parlais d'AGI et de on a peur de l'AGI, mais c'est une connerie. Mais elle est déjà là.
Elle est déjà là. Elle est cachée dans Suno.
Non, mais c'est pas.
En même temps, elle prenait pas trop de risques. Hein, les enfants, c'est toujours malade. Donc.
Ah, bah, les miens en particulier. Ouais, ça, c'est sûr que. Mais oui, c'est que tu vois, Suno n'est qu'un des agents de l'AGI qui est déjà là sur l'Internet. Donc, maintenant, on saura. On n'ignorera pas ces avertissements que nous fait l'IA. On aura retenu notre leçon, j'espère. Bon. Leçon importante à retenir, c'est qu'il faut parler des sujets importants de la semaine. On en a 3, comme toutes les semaines, et ils sont forcément hyper intéressants. Le premier d'entre eux, c'est le gouvernement français qui dit non à WhatsApp, qui dit non à Signal, qui dit non à Telegram et qui dit oui à Olvid ou Chap, enfin en particulier Olvid. Et si tous ces noms-là ne vous disent rien, sachez que ce sont des messageries, des services de messagerie, des apps de messagerie, de messagerie en direct, hein, des DM. Et le gouvernement dit non, non pas pour le pays hein, en général, mais pour les ministres et les ministères et l'administration. Ce qui s'est passé il y a quelques jours de ça, il y a une petite semaine, c'est que la première ministre Elisabeth Borne a déclaré que les ministres devaient, dans les semaines qui viennent, arrêter d'utiliser les services de messagerie suscités, comme WhatsApp, Signal et Telegram, et utiliser plutôt un service de messagerie comme Chap ou Olvid, qui sont des solutions françaises, développées en France, messieurs, dames, et qu'il serait donc désormais interdit d'utiliser des services non français. Alors, protectionnisme, erreur grossière, méconnaissance des systèmes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et beaucoup de réactions ont été, comment dire, il y a des gens qui, alors en particulier les intéressés disent « mais enfin c'est une erreur, nous sommes tout à fait fiables, il n'y a pas de raison de vous essayer de provoquer la peur, etc. » L'argument étant, alors, pour WhatsApp, c'est discutable parce que l'application est fermée. Telegram, bah, on n'a pas le code source, ce n'est pas une application ouverte. Enfin, WhatsApp, c'est Meta, hein, donc c'est carrément méga fermé. Signal, Et certains utilisateurs francophones même disent, écoutez, Signal, c'est open source, on peut voir le code, on sait très bien s'il y a des problèmes ou pas dans les différentes versions. Et d'ailleurs, même certaines des applications que vous recommandez, bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est du code fermé. Donc, il faudrait peut-être lui préférer une application dont le code est ouvert, donc c'est, si on veut la sécurité. Et d'autre part, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée de chercher français pour français alors qu'on a d'autres outils plus efficaces, mieux développés Là, il y a vraiment... ça va être des outils qui vont être moins performants, etc., etc. Simplement parce qu'ils sont français, ça n'a pas de sens. Corben, tu es un petit peu un habitué du « Oh, mais c'est que des conneries tout ça, ils sont... » Tu vois, je te caractérise de cette manière. « Oh, arrêtez de nous faire chier avec tout ça. »
Caricature.
Voilà, un tout petit peu.
Installer qu'est-ce que le pare-feu Open Office, tout ça.
qu'est-ce que tu penses de cette décision du gouvernement de privilégier un outil français ?
Non, je pense que la décision est bonne. Après, c'est la façon de l'exprimer qui n'est pas bonne. Mais non, c'est toujours mieux d'utiliser, surtout bah, pour des membres du gouvernement, pour même les fonctionnaires, enfin des agents de l'État, d'utiliser des applications qui sont développées en France, hébergées en France, avec des données, voilà, des choses qui sont auditées par l'ANSSI et compagnie, quoi. Non, ça, pour le coup, je suis entièrement pour. Mais après, la petite sortie d'Elisabeth Borne, je crois, qui dit qu'en gros... les autres applications sont pas fiables à part les deux nôtres qu'on a, c'est-à-dire Chap et Olvid. C'est un petit peu aller vite en besogne, quoi. C'est-à-dire que dans toutes les applis, il y a des failles de toute façon, que ce soit dans Signal, dans Telegram, dans WhatsApp, même dans Olvid ou Chap, il y aura des failles. Il y en a sûrement déjà eu. Donc voilà, c'est pas un scoop de dire que toutes les applications sont faillibles. Mais
c'est le fait vraiment cette mention spécifique de dire ah bah les autres applications ne sont pas fiables, utilisons la nôtre qui est fiable, qui te pose problème. Tu dis que c'est maladroit.
Ouais, c'est maladroit parce qu'on passe encore pour des cons en fait. C'est toujours pareil, c'est de dire non mais c'est ça au niveau international, voilà et puis du coup c'est la CEO de Signal a réagi, enfin tu vois ça a fait parler alors qu'en fait c'est un peu une information qui est pas forcément très pertinente pour l'international, quoi, de savoir que la France, on passe sur des messageries franco-françaises et compagnie, quoi.
Pour les membres du gouvernement, hein, soyons précis.
Oui, il y a ça aussi, oui.
Cédric, tempête dans un verre d'eau, bonne décision, erreur monumentale d'un gouvernement qui ne sait pas, qui ne comprend pas la technologie.
Ouais, c'est un peu le bal des offusqués, ce truc-là, mais... Ouais.
Le bal des offusqués, j'aime bien. Je crois que tu m'as donné un titre d'épisode.
C'est vraiment
là.
Ça. C'est vraiment ça. C'est en fait, les deux camps sont offusqués. C'est vraiment ça. Il y a ceux qui vont te dire « Ouais, c'est complètement exagéré. » En fait, les solutionnistes technologiques habituels qui te diront « Il y a Telegram qui marche très bien. Pourquoi est-ce que nous, Français, on serait meilleurs qu'eux, machin, des solutions utilisées déjà par des millions de personnes, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça, machin, pour qui on se prend et tout ce qu'on veut. Donc, on s'offusque de ça. Et puis, de l'autre côté, tu as logiquement... alors, je dis logiquement parce que je penche plutôt du même côté que Corben, c'est-à-dire que sur des... Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas trop plaisanter. Et typiquement, quand un scandale éclate parce qu'on a un ministre qui a été, espionné, etc., parce qu'il utilisait une messagerie étrangère, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sécurisée, hein, mais versus une solution maison. En fait, on serait les premiers justement à s'offusquer de ça en disant « Mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent WhatsApp ? Ils sont complètement cons, etc. »
Cette réaction aurait... Voilà. Complètement pu avoir sûr. Lieu en cas de problème. Ouais.
Ah, mais bien sûr.
Et donc, d'autant plus qu'on a Olvid, que Chap a été développé spécialement pour l'utilisation des ministères.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des iPhones alors qu'on pourrait utiliser des Alcatel ou des Sagem? Non, je plaisante. mais vraiment, l'idée, c'est de. Je crois que c'est la bonne solution de se dire on va utiliser des solutions maison. Déjà, pour deux raisons. C'est que. Il y a moins de chances. Que des gens, enfin, sauf si vraiment on a envie d'aller casser le Olvid ou Chap dans le but d'espionner l'État français. Mais dans ce cas-là, on le sait en fait. Tu vois, les gens vont devoir mettre un paquet de pognon, sauf si c'est codé avec les pieds, mais vont devoir mettre un paquet de pognon pour aller casser un truc qui est utilisé par 10 pélos du gouvernement français. Donc, si vraiment il y a ça, le gros avantage, c'est qu'on est capable, du coup, d'entre guillemets, d'identifier une menace et on n'est pas juste le simple dommage collatéral de, je sais pas, la Chine qui aurait eu envie de connaître les accords entre, je sais pas, Berlin et Paris ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est comme à l'époque, tu sais, de macOS où finalement, quand les gens achetaient des Mac, ils étaient tranquilles. Pas parce que macOS était plus sécurisé, mais juste parce qu'en fait, qui avait vraiment envie de passer du temps pour essayer de pirater deux gugus qui utilisaient un Mac pour faire du graphisme dans leur truc, tu vois ce que je veux dire? À l'époque, on est vraiment dans cette dimension-là.
À l'époque, il y avait trop peu, c'était un rendement d'investissement qui était pas fort.
Il y avait trop peu d'utilisateurs. Évidemment, c'est pareil.
L'intérêt d'espionner des officiels, enfin des ministres, peut être important. Mais je crois qu'il y a également cette question de souveraineté. Et la souveraineté, c'est pas juste dire...
Non, mais bien sûr. Mais c'est une combinaison de facteurs qui, aujourd'hui, font penser que cette solution-là est, du coup, la moins pire des solutions qu'on pouvait imaginer. La souveraineté, parce qu'effectivement, si demain, je sais pas, le gouvernement américain décide que la France, bon, on travaille plus avec elle, et donc toutes les entreprises qui décident, comme on avait avec la Chine, hein, toutes les entreprises qui travaillent avec la France, du coup, ont des amendes, et du coup, on se retrouve coupé de tous les services qui étaient utilisés, pourquoi pas par le gouvernement, mais aussi par les citoyens, ça serait hyper emmerdant, et ça nous permettrait d'assurer cette continuité de service, par exemple, pour l'État français. Ça, c'est un des facteurs. Il y a le facteur de... moins on est à l'utiliser, moins ils auront peut-être envie d'aller le péter. Et il y a le facteur, effectivement, de... on ne sait pas ce qui se passe, tu vois, sur un WhatsApp qui n'est pas open source, qui n'est pas... tu vois, on ne sait pas comment les choses sont faites, on ne sait pas...
Je crois que...
Donc, on n'est pas à l'abri d'une bêtise sur ce type de réseau, quoi. Donc, voilà.
Je crois que la question de la sécurité aussi est peut-être pas parfaitement bien interprétée, parce que je pense que quand Elisabeth Borne dit c'est pas sécurisé, je pense qu'elle elle comprend aussi on sait pas où sont, enfin on peut pas aller appeler les développeurs et le CEO de cette société dans les bureaux de l'Élysée, ou pas de l'Élysée mais de Matignon.
Oui, c'est un cumul, c'est un abus de langage, peut-être.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est que, évidemment, une application comme Signal, alors pas Telegram qui n'est pas open source, mais Signal est entièrement open source, il n'y a pas plus sécurisé que Signal. C'est open source, audité par des centaines de chercheurs en sécurité. Il n'y a aucun doute sur le niveau de sécurité de Signal. Par contre, Olvid, ils sont sur le territoire, ils sont assujettis à la loi française, etc., etc. Donc,
d'un coup, ils pètent un plomb, on sait les rattraper, quoi. Alors que le Signal, c'est plus compliqué.
Et puis, ils sont assujettis à la loi française, littéralement, à tous les niveaux, parce que c'est une société française. Je signale que
responsable Chap... des contenus, responsable de tout.
C'est ça. Chap est une application interne, si je ne me trompe pas, au gouvernement, ou en tout cas à l'administration qui a été développée pour ça. Olvid, c'est une application que n'importe qui peut télécharger et installer. Donc, c'est deux applications un petit peu différentes, mais je pense que d'une manière générale...
Chap, c'est basé sur Riot, la Matrix.
C'est
une technologie qui est déjà open source à la base, quoi. Et après, oui, c'est
qui a été adapté. C'est ça. C'est une implémentation d'une technologie existante. Bon, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à dire de plus là-dessus. Je voulais qu'on fasse le point avec des experts qui savent de quoi ils parlent, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Le bal des offusqués, c'est pas mal pour résumer la chose. Il y a un autre sujet que j'ai particulièrement apprécié cette semaine en faisant ma veille, c'est le reveal, les démonstrations de Seamless Communication de Meta. Alors, qu'est-ce que c'est que Seamless Communication ? Les fans de Star Trek connaissent déjà, en fait. C'est le fantasme du traducteur universel qui est littéralement réalisé par Meta en combinant des outils existants qui sont évidemment, sans doute, basés sur de l'intelligence artificielle. Il y a 3 ou 4 outils différents qui sont combinés pour créer un traducteur universel qui fonctionne en temps réel. Et vous vous direz peut-être, mais on connaît déjà, ça existe déjà, ça. En fait, non. C'est un fantasme dont on se dit qu'il est à notre portée dans pas longtemps, depuis un bon moment, mais il n'existe pas vraiment encore. Ou en tout cas, pas exactement sous cette forme. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit donc d'une combinaison de un outil qui comprend ce que vous dites, qui le traduit, et qui le parle ensuite, donc trois outils différents en fait, en temps réel et avec une nouveauté intéressante qui est l'expressivité de votre ton et de votre voix. Ils ont quelques démos qu'ils ont mis en ligne. Si on a par exemple cette entrée,
please keep the volume down, just put the baby to sleep.
Donc ils disent please keep the volume down, we just put the baby to sleep, mais vous entendez qu'il chuchote. En espagnol, traduction normale par les modèles habituels, ça donne ceci.
Por favor, mantén el volumen bajo, hemos puesto al bebé a dormir.
Donc,
ils ne savent pas chuchoter les Espagnols.
Ils savent pas. Eh bien, si, grâce à Meta, écoute ce que ça donne avec Seamless Expressive, le modèle qui préserve le niveau, enfin, la texture de la voix. C'est assez dingue, hein? Un autre.
Please, don't leave. I hate being here alone.
Donc là, c'est une voix un petit peu géniarde. Please don't leave. I hate being here alone. On a l'impression que c'est mes enfants qui me demandent de pas partir quand je dois travailler. En français, en version non expressive.
S'il vous plaît, ne partez pas. Je déteste être ici seul.
Vous entendez que le son n'est pas parfait, hein, mais la version
hyper
expressive.
Naturel, hein.
La version expressive.
S'il vous plaît, ne partez pas. Je déteste être ici seul.
Alors, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais on a...
On dirait Marvin de H2G2, version féminin.
Donc, ça, c'est l'outil Seamless Expressive. Il y a également Seamless Streaming qui fait le truc en direct. Et encore une fois, vous avez déjà entendu des traductions. Là, il faut se souvenir que c'est en direct. C'est-à-dire que la personne commence à parler. Deux secondes plus tard, ça commence la traduction.
Nuestro modelo nos podría ayudar a hablar con gente del mundo.
Our model can help us talk to people from the whole world. For example, I speak Spanish and my teammate Alex speaks French. The model translates these two languages and many more.
Hola Alex, ¿cómo estás?
Hello Alex, how are you? How is the climate in Paris?
Salut Juan. Bah, écoute.
Hi Juan, listen, it's going very well and you?
C'est plutôt beau aujourd'hui ici.
It's rather nice here today. We're lucky.
Donc voilà ce que ça donne, utilisé en direct. Et encore une fois, alors, l'expressivité de la chose est maintenue. Et puis, vous direz peut-être, alors, la qualité du son n'est pas incroyable. Oui. Le langage n'est pas hyper naturel.
Oui.
Mais l'outil, enfin, le module Seamless Streaming doit résoudre énormément de problèmes. Bien sûr, la vitesse d'opération, parce qu'on ne peut pas attendre 10 minutes que le modèle mouline derrière et traduise et resynthétise la voix, enfin la comprenne, la traduise et la resynthétise. Et en plus de ça, il y a un autre problème hyper compliqué à résoudre, c'est que dans certaines langues, les mots ne sont pas arrangés dans le même ordre dans une phrase. Donc il faut que le modèle intègre également cette contrainte et qu'il décide quand il va commencer à traduire en fonction de la langue qu'il écoute, etc. etc. Bon, là, c'est une démo qui est fournie par Meta. On n'a pas du tout la possibilité de l'utiliser tout de suite maintenant. Enfin, ils vont le livrer en open source, pas en open source, mais ils vont le livrer en utilisable pour tout le monde pour continuer à développer la chose. Mais le résultat est quand même, moi, je trouve hyper bluffant parce que c'est en direct, c'est Babelfish, quoi. C'est, on parlait du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est ça. Je suis, moi, assez éberlué.
C'est exactement ça. Et c'est bluffant. Il manque un truc, je trouve. Bon, après, pas pour l'exemple qu'il donne, parce qu'en fait, en gros, c'est vraiment de... En gros, c'est ce que font les interprètes quand on les voit sur des plateaux de télévision. Quand on a le son qui baisse de la voix d'origine et on a la voix de l'interprète par-dessus. Sauf que là, l'avantage... Bon, au revoir les interprètes. Hein. Salut, c'est un métier qui... je leur laisse plus longtemps, malheureusement. Enfin, en tout cas, pour ça, pour les interviews en temps réel.
Alors... C'est oui et non, parce que le problème, c'est que à ce stade, en tout cas, dans quelques années peut-être, mais il faut que tu sois dans des interviews, ce genre de choses, il faut que tu sois 100% sûr que le truc te dit pas une connerie, quoi. A priori, un interprète, tu peux lui faire confiance ou au moins lui taper sur les doigts s'il a dit une bêtise.
Oh,
il y a,
des fois, c'est pas toujours le cas. Mais mais dans quelques années, effectivement, ça fait partie des métiers qui, malheureusement, auront moins d'utilité. Et puis surtout, ça rend la chose accessible à absolument tout le monde. Demain, tu es un indépendant qui fait du jeu vidéo, par exemple, et tu veux décider de faire ta vidéo. Tu es français, tu sais, parles hyper mal anglais. Salut Ubisoft. Et donc, du coup, tu décides de faire ta présentation et tu veux qu'un interprète traduise pour toi. Bah, en fait, c'est possible. En plus, avec ta propre voix, c'est génial. L'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être la synchro labiale, bêtement, comme on l'a vu d'ailleurs sur des IA, bah, sur YouTube typiquement. Mmh. Et voilà, c'est ça. Agen, etc., qui permettent de faire ce truc-là. Mais imagine demain, dans un logiciel comme Discord, une latence de 2 secondes, c'est acceptable. C'est même parfois la latence qu'on a entre nous, là, dans l'émission, quand on ne peut pas se couper la parole et tout ça. Imagine qu'en fait, bah, la vidéo qu'on est en train de diffuser pour ceux qui nous suivent en live, la synchro labiale est là aussi, même si on parle une langue étrangère. Donc, tu peux inviter absolument n'importe qui dans tes émissions, tes podcasts. Ça garde la voix, tu as la synchro labiale. Enfin, c'est incroyable. Et là, même déjà, Seamless, tu peux déjà inviter le monde entier dans tes émissions, même si tu ne parles pas du tout la langue, en fait.
Alors, évidemment, la qualité, là, à ce stade, n'est peut-être pas assez satisfaisante pour une qualité audio convaincante pour les auditeurs, mais c'est vraiment le tout début, là encore. Et j'insiste sur ce point, parce que tu disais les histoires de vidéos. En différé, tu peux évidemment faire une traduction qui est même plus efficace. Là, c'est en direct. C'est vraiment le fantasme du traducteur universel ou du Babelfish, comment ça se dit en français, du poisson de Babel.
C'est direct dans ton téléphone, direct dans ton iPhone, tu appelles un Américain, il te parle en français et vice-versa. C'est transparent, ouais. Ça serait fou.
C'est fou.
Bah ouais.
On est d'accord.
Ça serait fou, ça va être fou.
Ouais, non, mais c'est fou. On peut essayer la démo soi-même en enregistrant sur son téléphone et en ayant le résultat, on peut l'essayer sur le site. Je mettrai le lien vers le site dans les notes de l'émission. Il y a 2 autres petits trucs d'IA dont je voulais parler. D'une part, un moteur un chatbot de Perplexity. Voilà, c'est Perplexity Labs qui a fait un chatbot qui est comparable à ChatGPT, mais qui a accès à Internet pour avoir les infos récentes. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tester, je vais regarder ça. T'as vu Perplexity Labs, Corben ?
Non, j'ai pas vu ça encore.
Eh bien, essaye-le. Moi, j'ai testé, je me suis dit, bah, je vais demander la température à Helsinki. Je demande, et il me dit, il fait 19 degrés à Helsinki. Oula ! Alors, comment te dire ? C'est... Non, mais je lui ai demandé justement, je lui ai dit, mais je veux pas ton système impérial débile par mois en métrique, quoi. Et il m'a dit, ah oui, si, je t'assure, il fait 19 degrés à Helsinki. Est-ce que c'est moins 19, t'es sûr? What's the temperature in Helsinki right now?
Positif, négatif. Ou alors, c'est la température de ta maison.
Ah ben, bah, attends, il ne veut pas répondre là. Il a compris peut-être qu'ils ont corrigé ce problème, il sait qu'il ne peut pas répondre. Alors, je me suis dit, ok, n'importe quoi, ça ne marche pas. J'ai quand même testé 2 autres petits trucs. J'ai posé des questions sur les sujets que j'étais en train de regarder pour l'émission. Et je lui ai demandé, c'est pas tous des sujets qui se retrouvent dans l'émission finale, mais le farewell tour de Kiss. Vous savez, les mecs avec de la peinture sur la tête, là, tout ça. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai entendu des infos sur le farewell tour de Kiss? Eh bien, il a su répondre qu'ils ont fait leur dernier concert et qu'ils vont avoir des versions holographiques de leur performance, qui vont continuer à faire des concerts ad vitam, peut-être pour toujours. Je lui ai demandé des informations sur la grève des livreurs Uber Eats. Il m'a donné les bonnes informations. Je lui ai demandé des informations sur Daphne Keane Fernandez, qui est l'actrice qui jouait X-23 dans Logan, le film sur les Logan Wolverine, qui, selon certaines rumeurs, pourrait revenir pour Deadpool 3. Il a su ouais, tout bah là, ça.
J'allais lui demander quand est-ce que GTA 6 allait sortir et il me dit que le trailer officiel a été dévoilé le 4 décembre après qu'il ait été divulgué en ligne avant sa sortie officielle prévue le 5 décembre. Donc tu vois, c'était hier.
Et ben voilà.
Donc, c'est au taquet, hein.
Et la réponse est hyper rapide. On est aussi rapide que sur un chat GPT, voire vraiment on est dans ce genre d'ordre de grandeur. Et là encore, je parlais du communicateur universel et du fait que c'est fou. Bah, moi, je trouve ça fou. Le fait d'avoir un chat GPT, en quelque sorte, qui va consulter Internet pour donner des réponses à jour, c'est aussi un truc complètement fou. Alors, on savait que ça allait arriver. On se disait, dès qu'on a vu chat GPT l'année dernière, on s'est dit, bon, bah, imagine le jour où il peut consulter Internet. Là, il peut consulter Internet. Ça y est, on y est. C'est dingue.
C'est dingue. Moi, je teste, c'était trop cool. C'est dingue.
Bah oui, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que Faire des résumés de PDF ou de la data analyse sur des tableaux Excel, c'est l'usage basique pour les lycéens qui veulent tricher au bac, quoi. Mais après, ça va au-delà de ça. Résumer toute l'œuvre de Balzac par ChatGPT, c'est faisable. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Les usages, en fait, même après en assistant, parce que tu vois, on parle beaucoup de ChatGPT, etc. Mais le jour où ça s'est intégré vraiment dans ta montre, sur ton poignet, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, bah comme Copilot, ce que veut faire Microsoft finalement, mais encore c'est différent. Le jour où on aura enfin de vrais assistants qui vont t'aider, même, alors je dis c'est différent, mais Microsoft avec Copilot, tu peux déjà exécuter du code, tu peux déjà faire plein de trucs. Mais ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on en sera là, où ton ChatGPT, tu lui dis, il te comprendra, bah, comme il te comprend déjà par écrit, et il va ajouter tes rendez-vous dans le calendrier, faire du multimodal, du multifonction, genre envoie un message à ma femme, lance une lessive, fais ça, machin, ajoute-moi un rendez-vous, et rappelle-moi quand j'arrive au travail de faire ceci. Bah, en fait, tout ce texte-là qui va être interprété en plein de petites tâches, où il va ajouter un rendez-vous, rajouter un rappel, rajouter un machin, etc. Quand on en sera là, là, on aura fait un grand pas en avant. Ouais. Et d'ailleurs, on commence à s'en approcher et le choix d'Apple, typiquement, d'intégrer le Neural Engine partout et de faire de l'exécution locale, tu vois, typiquement sur l'Apple Watch Ultra 2, sur la série 9, tu le vois sur l'iPhone 15, bon, il y avait déjà des exécutions locales, mais il y a beaucoup plus de commandes locales. Le M3 qui maintenant a toute la partie Neural Engine qui a énormément progressé. En fait, le plan d'Apple, même s'ils n'en parlent pas, c'est que finalement...
C'est tout avoir sur ta machine.
Ouais. C'est tout avoir sur ta machine, en fait. C'est d'arrêter d'appeler à l'extérieur. C'est d'exécuter ces modèles-là localement. Et là où ils sont très forts, c'est que aujourd'hui, quand vous voulez exécuter ce genre de choses, moi, je le fais avec mes étudiants. On a pas mal d'ateliers avec LM Studio, etc. On fait des choses avec des Llama et compagnie.
Llama, le modèle de langage de Facebook. Le modèle de langage,
ouais, pas des animaux. Hein, on fait pas des trucs avec des animaux sur le campus. Mais avec, ouais, c'est illégal. Et c'est dégueulasse. Ça crache et tout. Bon, bref, Llama 2, l'idée, en fait, c'est que ce modèle, quand vous téléchargez un modèle avec 7 milliards de paramètres, vous faut 8 gigas de RAM pour faire tourner le bordel. Si vous utilisez une carte graphique, bah, ça veut dire qu'il faut 8 gigas de RAM sur votre carte graphique. Donc, déjà, on commence à taper dans des RTX qui sont un peu costauds. Et quand vous l'exécutez des 70 milliards de paramètres, bah vous oubliez en fait une carte graphique avec 64 gigas, il n'y en a pas en fait. Enfin, alors
c'est des trucs de pro.
Alors que la mémoire unifiée des Apple Silicon, bah vous prenez un M3 Pro avec 64 gigas de RAM, toute la partie Neural Engine, etc., bah vous faites tourner un modèle avec 70 milliards de paramètres sur un ordinateur portable. Quoi. Bah, voilà. Et en fait, la strat d'Apple, ils ne parlent pas d'IA, mais en fait, ils en font par le... En fait, eux, leur approche est différente. Et le jour où ça va débarquer, en fait, on se dira, waouh, en fait, c'est le big picture, c'était on installe le matériel partout, ouais, on déploie des mini-modèles et des machins, alors que les autres ne sont pas du tout dans ça. Microsoft ne peut pas faire ça. Copilot va dépendre toujours de data center et d'Internet, etc. Vous verrez, dans quelques mois, on en parlera.
Le seul truc que j'aurais à redire, c'est qu'on dit engine et pas engine. un autre truc également dont je voulais parler. Est-ce que vous connaissez TLD Row? Vous savez ce que c'est TLD Row? C'est TLD Row, en fait, pour décider. En fait, à la base, c'est un whiteboard, un outil de whiteboard. Et on peut... Ils ont un sous-outil qui s'appelle drawfast.tldraw.com. C'est drawfast, il sera aussi dans les notes de l'émission. Et on peut avoir un outil IA qui réalise en direct un truc qu'on lui dessine mochement. Alors là aussi, c'est un truc qui existe déjà, hein, mais c'est quasiment instantané. On lui dit « crée une petite fenêtre drawfast ». Hop, on peut, dans la fenêtre drawfast, cliquez sur l'intitulé, je vais lui dire par exemple Bird. Je lui dis de faire d'interpréter ce que je dessine comme un oiseau. Et je vais faire hop, je fais des petites pattes.
Visuel,
et c'est très visuel. Hein. Des petites pattes, hop, et des petites des ailes qui sortent de partout. Et en direct, genre, ça prend quoi ? 100 millisecondes, il l'interprète en faisant un dessin de ce que, enfin, un beau dessin des trois traits pourris que je suis en train de dessiner. Là aussi, vous pourrez, si je fais Alien, par exemple, immédiatement, je lui change le prompt, je lui change ce que je suis en train d'interpréter, je lui dis Alien, et bien tout de suite, il dessine autre chose à partir de mon petit croquis tout moche. Et ça fait un petit peu peur. Hein. Alors, il y a des fois, c'est plus ou moins réussi. Parfois, ça fonctionne, parfois ça fonctionne moyen. Mais la performance est impressionnante, je trouve. Si vous voulez le tester, je mettrai le lien dans la newsletter. Et voilà, pour cet outil également, je t'ai fait deux contenus. Corben, j'espère que tu es content d'être.
Ouais, non. Alors, très cool. Je connaissais pas. Je connaissais TL Draw, mais je connaissais pas le Draw Fast.
Le Draw Fast.
Par contre, alors là, du coup, ça utilise de l'IA, donc c'est assez cool. Mais si vous voulez un truc qui fait à peu près pareil, mais sans IA, enfin, ça s'appelle Autodraw. Autodraw.com. En fait, tu dessines une maison toute moche. Lui, il va reconnaître ton dessin tout moche et il va te proposer des pictos et il va remplacer ton dessin tout moche par des pictos de ce que tu as dessiné. Donc, tu testeras, ça te fera encore des trucs encore plus fous.
Encore plus fou. Voilà. Si je lui dis, je lui dis Alien Cartoon, est-ce qu'il va me changer ? Oui, un petit peu. Alien Disney. Ah, ouais. Alien Pixar. Je vais juste mettre Pixar. Hop. Ouais. Oh, si, il est réussi. J'ai juste mis Pixar. Il m'a fait une sorte de petite souris avec mon dessin tout moche. Ça marche pas trop mal. Donc voilà pour les petits outils dont je voulais vous parler. Encore une fois, je le répète, newsletter dans les notes de l'émission. Tous les liens seront là-bas si vous voulez jouer avec tout ça.
Trop bien.
Et c'est, comme toujours, c'est difficile à suivre les évolutions de l'IA. Je vous en parle, je vous parle de certains outils parfois quand il y en a qui sont intéressants et rigolos. Mais il y en a tout le temps plein. Là, c'était l'occasion d'en parler. Et ceux-là, je pense qu'ils valent le coup pour jouer un petit peu, juste pour voir, pour se rendre compte de où on en est et de ce que ça peut donner en ce moment, les outils d'IA. Troisième sujet du jour. Quand je soupire, vous savez qu'on arrive à un truc j'aime bien, qui est intéressant et qu'en même temps, je n'ai pas hyper envie d'évoquer. Elon Musk.
Ah.
Elon Musk était à une conférence, il faisait une interview en live il y a quelques jours de ça, le week-end dernier, ou la semaine dernière. Et vous vous souvenez, on en parlait la semaine dernière également, ou il y a deux semaines, que les annonceurs, une grande quantité d'annonceurs importants, ont décidé de suspendre ou de retirer leur campagne de pub de Twitter suite aux problèmes d'antisémitisme qui se font jour sur la plateforme. Problèmes d'antisémitisme qui se font jour de deux manières. D'une part, parce que Elon Musk a réinstauré et limité la modération de ses propos, et parce que Elon Musk lui-même amplifie, voire répond en étant d'accord à certains contenus antisémites, voire carrément néo-nazis. Alors, on lui parle de ça dans l'interview. Il est, comme d'habitude, assez calme. Il a cette forme de langage un petit peu hésitante, mais il est toujours contrôlé. Sauf que là, il part dans une tirade assez inattendue en disant, écoutez, les annonceurs qui ont retiré leur publicité, j'ai un message pour vous, et je vais le dire traduit tel qu'il l'a dit, couvrez les oreilles des enfants, allez vous faire enculer. Et il le répète trois fois, quatre fois, et il dit « Salut Bob !» en disant bonjour à Bob Iger, qui est le président de Disney. « Allez vous faire enculer. » Il dit surtout « Si vous pensez que vous pouvez me faire chanter avec de la pub, voilà ce que j'ai à vous dire. » En gros, allez, ce qu'il dit, c'est ça. Il dit « Je ne céderai pas au chantage ». Le problème, en fait, dans toute cette histoire, au-delà du fait que, bon, il me semble un petit peu instable, comme je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu cette déclaration, ont dit « Ouais, là, c'est quelqu'un qui dit ça comme ça et qui gère sa société comme ça, c'est au minimum…
» Ouais,
Pardon ?
C'était le malaise.
C'était le malaise, c'est sûr. D'ailleurs, la personne qui faisait l'interview lui disait, il ne savait plus trop quoi répondre. Et il lui dit, mais vous ne pensez pas que ça met la société en danger, Twitter en danger? Il dit, ah mais si, ça peut tuer Twitter. Ça peut tuer Twitter, mais tant pis. Mais voilà, vous serez responsable et tout le monde saura que vous serez responsable. Mon interprétation de la chose, au-delà du fait qu'il y a clairement un problème dans la gestion de la boîte, c'est vraiment quelque chose de triste pour la personne, parce que je pense sincèrement, pour la personne, pour Elon Musk, je pense sincèrement qu'il a l'impression que ce boycott est une attaque personnelle contre lui, en fait. Que les annonceurs essayent, comme il le dit, de le faire chanter pour qu'il dévie de ses convictions profondes qu'il estime justifiées, sur notamment la liberté d'expression qui, on en a suffisamment parlé dans cette émission, est souvent utilisée, portée à son paroxysme, pour défendre des choses qui sont un petit peu indéfendables. Et c'est l'exemple qu'on voit sur Twitter depuis quelques mois. Mais donc lui, le considère comme une attaque personnelle et il prend à témoin le monde, il dit le monde entier saura que c'est à cause de vous que Twitter est mort, il prend vraiment le monde à témoin, alors que ce qu'il ne comprend pas, c'est que par l'intermédiaire des annonceurs, ce qui est exprimé, c'est l'opinion du monde, de la société, et pas une attaque contre lui, c'est la société qui essaye de dire à Twitter, par des mécanismes bien huilés, qui est celle de dire à Twitter, on n'aime pas trop les nazis, en fait. C'est la société en général qui dit, nous faisons pression sur les consommateurs, qui disent, nous faisons pression, ou pression anticipée sur les annonceurs, pour qu'ils ne soutiennent pas un réseau sur lequel peuvent s'exprimer des néo-nazis. Donc c'est vraiment l'opinion publique qui s'exprime par ce biais. Et lui ne veut pas comprendre ça, il le prend pour une attaque personnelle.
Sûr, ou il fait semblant de ne pas comprendre.
Ou alors c'est possible, hein, après on n'en est pas dans sa tête, mais il avait l'air de vraiment être convaincu d'être. On sentait qu'il bouillonnait et qu'il le prenait comme une attaque sur lui, quoi.
Perso, quoi. Ouais.
J'ai l'impression.
Ouais, c'est vraiment ça. En fait. On a la sensation qu'il prend ça pour lui. Alors, parce qu'en fait, il est tellement impliqué que. En fait, il a l'impression que. En fait, c'est toujours le Elon, au fond de lui en tout cas, il est toujours le gars qui va casser des règles, casser des marchés ou accélérer des marchés, ou il a toujours des idées de génie, etc. Et que finalement, c'est un peu un incompris dans ce milieu-là. Et là, il voit tout le monde se lever contre lui, le rachat de Twitter qu'il pensait sauver, etc. Et qui en fait. Au bout d'un moment, il pète un plomb. En fait, il se sent. En fait, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a vraiment cette sensation qu'il n'est pas bien. Qu'il est mal, en fait, vraiment. Là, ça en devient personnel pour lui parce qu'il ne prend pas de recul sur ce qu'il fait. Moi, j'étais. Tu vois, évidemment, je ne cautionne pas ce qu'il dit. Mais je me dis juste que peut-être que. Alors, pas moi à sa place, parce que c'est pas vraiment ça. Je vais pas aller jusque-là. Ça serait jamais arrivé si moi, j'étais à la tête de Twitter, en fait, de laisser passer ce genre de propos. Mais ce que je veux dire, c'est que, imagine demain, on attaque sans cesse personnellement ce que tu fais avec tes podcasts, etc., Patrick, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, par exemple, que les annonceurs... Et le pire dans tout ça, c'est que même, tu vois, par exemple, les annonceurs se... sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis et décident d'arrêter d'annoncer du jour au lendemain, etc. 44 milliards pour en arriver là, oui, c'est ça, Epic Fail. Ben, en fait, je peux comprendre que tu puisses le prendre personnellement. Tu mets tellement de choses de toi dans ce que tu fais qu'à partir du moment où imagine, les annonceurs demain disent « Non, on va plus voir Patrick parce que, je sais pas, il est vieux, imaginons. » Les gens décident de faire de l'agisme et de dire « Non, Patrick, il est un peu vieux, sa vision sur le truc, ça nous plaît pas, etc. » Et qu'en plus... des concurrents sur des affaires qui produisent du podcast sont aussi parmi tes annonceurs, etc. Tu vois, j'en sais rien. Et décident d'un entre guillemets commun accord d'arrêter de te donner de l'argent. Peut-être que tu dirais écoutez, puisque c'est ça, je vais revoir mon truc et tant pis pour vous en fait. Enfin, allez vous faire voir en fait. Vous voulez pas de moi.
Tu t'enfonces.
En fait, il a pris comme ça.
Mais je pense. Et ce que tu dis.
Sur ça, en fait.
Ce que tu dis est tout à fait juste, parce que c'est l'une des choses que certains veulent occulter, à mon sens, c'est qu'il a été à plusieurs reprises ce disrupteur à qui tout le monde a dit non, c'est pas possible, tu peux pas, et qui a réussi par différents biais sur différents domaines, et qui a réussi. Et sauf que là, à force qu'on lui dise t'as raison sur tout, t'es un génie, il a fini par le croire. J'imagine qu'il y a peu de gens qui lui disent non aujourd'hui. Et donc, on imagine, hein, on ne sait pas, mais on imagine qu'il s'est vraiment monté la tête et qu'il est dans une... il lui arrive ce qui arrive aux gens qui sont célèbres et à qui personne ne veut dire non, c'est que tu deviens un petit peu bizarre, un petit peu étrange et tu te crois toi-même. Et l'autre aspect, qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est que c'est quand même des nazis. Tu vois, c'est qu'il y a un problème qui est un petit peu plus objectif, qui est moins discutable même que sur le fait de est-ce qu'on peut construire une fusée nous-mêmes à partir de rien ? Est-ce qu'on peut développer des véhicules électriques ?
Mais en fait, le truc, c'est qu'il se dit, si j'écoute les gens, mais ça rejoint ce que tu dis, tu vois.
Non, mais complètement, complètement. Il a réussi en n'écoutant pas les gens.
Voilà, et en fait, il se dit, si je vire tout le monde de la plateforme, les nazis, etc., machin truc, en fait... est-ce que je vais réussir en fait ? Et je pense qu'en fait, il est en train de se tromper. Peut-être qu'un jour, il dira bah, « je me suis trompé
oui. ».
Et après, tu vois, j'arrive jamais à savoir avec lui si foncièrement, il croit vraiment ce qu'il dit ou si c'est
le
du
fait
clientélisme.
Pour les clics. Ouais.
Voilà. Et j'arrive peut-être. Pas à le savoir en fait. Et j'ai une lueur d'espoir en moi qui me fait penser que c'est du clientélisme de bas niveau, débile... qui se voit comme le nez au milieu de la figure, tu vois, mais c'est, le problème c'est que c'est tellement gros que j'ai du mal à penser que c'est que ça en fait, tu vois, en fait, c'est ça qui est vraiment problématique, et le voir sombrer dans ce côté nationaliste, encore quand ça parlait que du milieu des affaires, de en gros du capitalisme
débridé,
etc., il est dans son rôle. Mais ça, quand ça commence à parler de l'immigration, de la frontière mexicaine, etc., machin, là, il a changé de... c'est plus le jeune qu'on a... Enfin,
sur ce point, je pense qu'il n'y a pas... pas dans son rôle, oui, c'est peut-être pas un expert, mais tout le monde a le droit de s'exprimer sur des questions de politique publique ou pas publique. Moi, je ne suis pas très client de l'idée... Mais oui, c'est ça.
Les nazis ont aussi le droit de s'exprimer.
comme les nazis, non, pardon. Non,
mais tu vois. Tu es en train de faire
le problème, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est pas le fait qu'il s'exprime qui est un problème ou qu'il dise ce qu'il pense de l'immigration ou de quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est qu'il y a des nazis sur sa plateforme quoi, et que lui-même. Bref. Donc, voilà pour le Go Fuck Yourself. Les conséquences. Risquent d'être très problématiques parce que les annonceurs, après ça, je pense que Linda Iaccarino va faire tout ce qu'elle peut pour tenter de les faire revenir, mais ils ne vont pas revenir. Tu vois, c'est ça, on a passé un petit moment à parler de Elon Musk, mais le plus important, c'est pour la plateforme Twitter. Je plaisantais la semaine dernière qu'il voulait transformer, il voulait Parler, il aurait pu acheter Parler, qui est la plateforme liberté d'expression extrême. Il aurait pu l'acheter pour beaucoup moins cher que Twitter. Là, il est vraiment en train de faire Parler. Il n'y a plus d'annonceurs respectables.
J'imagine. J'en suis moins un point à me dire quand est-ce qu'arrive Threads de.
Alors,
quoi, tu vois
on va y venir. Corben, un truc à ajouter là-dessus ou...
Non. Après, Elon Musk, comme vous, en fait, je ne sais pas trop à quoi il joue. C'est vrai qu'il flingue en fait son propre truc. Et tout ça juste parce qu'il est jusqu'au boutisme sur la liberté d'expression quoi. Il ne veut rien entendre, mais bon après ça fait partie aussi de ses opinions politiques donc
c'est ça qui est frustrant, c'est même plus une question de libertaire, c'est vraiment, et j'insiste et je répète ce truc tout le temps et j'en parle régulièrement parce que malheureusement il faut, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont inacceptables dans la vie. Je pense qu'on ne parle même pas d'extrême droite. Quand on dit les nazis, on parle littéralement des nazis. Et c'est vraiment là qu'on met la limite, tu vois, je veux dire, c'est une limite qui n'est pas trop controversée. Il n'y a pas de truc où tu dis, non, là, il y a quand même... C'est genre, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que c'est... Non, je ne vais même pas partir dans des exemples débiles. C'est juste, les nazis, non. Et là, il n'y a plus de débat sur est-ce que c'est des nazis, oui ou non. C'est oui, il y en a qui partout. Et lui, il répond. Donc, tu vois, c'est même pas une question de vraie question de liberté d'expression ou d'opinion politique ou de machin. Non, à un moment, tu vois, il y a une limite sur laquelle tout le monde est d'accord et dans la société, tout le monde doit être d'accord. C'est les nazis, les nazis littéraux qui font à Hitler devant la photo de Hitler, tu vois. C'est ceux-là auxquels on dit.
Lui en est un.
Ah, mais, non, je ne sais pas. Écoute.
Non, mais je veux dire, s'il les défend autant.
Ah, bah, il a l'air d'être d'accord avec des gens qui disent des choses un petit peu limites, quoi.
Ouais, c'est qui partage.
Ah, là, Fanny, elle dit j'espère que Twitch ne va pas se faire striker à cause du mot, justement, nazi. Tu as prononcé le mot du. Le
c'est un joli continent. C'est un joli continent, voilà. Nazi.
Écoute.
Ouais.
Si on se fait. Stress up, hein, si on se fait striker parce qu'on dit les nazis, c'est pas bien, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, la conséquence vraiment à retenir au-delà de nos divagations sur Elon Musk lui-même, c'est la survivabilité de Twitter ou de X, parce que sans annonceur et avec un succès de ces formules d'abonnement qui est tout relatif, bah, c'est pas évident, quoi. Voilà donc pour Twitter et voilà pour nos trois sujets à retenir. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon, patreon.com/rdv. Tech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez, si vous n'aimez pas les nazis, vous non plus, peut-être que vous pourriez vous dire que... Non, je ne sais pas quel est le rapport. Comment je pourrais lier le fait de ne pas aimer les nazis... J'essaye de maximiser, tu vois, le fait de provoquer l'acte d'achat, le call to action. Si vous n'aimez pas,
les
nazis...
Si tu n'aimes pas les nazis, soutiens Patrick.
Soutiens Patrick.
Si tu ne le soutiens pas, c'est que tu aimes les nazis.
Ah, voilà, voilà. Merci Corben, on a trouvé la formulation qui aurait pu être écrite par une IA. Non, plus sérieusement, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech, vous pouvez le faire n'importe où, de n'importe quel appareil, et vous pouvez le faire aussi quand vous revenez chez vous, que vous mettez les clés dans le bol ou que vous les accrochez au crochet, ça fait cling ou clac ou cling, et vous vous dites « Ah, Patrick !» Et oui, cling Patrick, c'est le moyen mnémotechnique imparable pour aller sur patreon.com/rdvtech.
Dans le beau bol pour les sous.
Les clés dans le bobble pour les sous-sous. Merci. Vous le retenez. C'est ça qui est important.
De la chanson Suno.ai.
C'est ça.
C'est important.
Exactement, qu'on m'avait livré sur Discord. D'ailleurs, le Discord, je vous en parle souvent. Il s'est passé un truc bien drôle il y a quelques jours. Désolé, je vais mettre notre ami You sous le bus. Je pose la question. Sur le Discord, j'aimerais bien peut-être utiliser les notifications un petit peu plus, les at everyone. Vous savez, quand on fait at everyone, c'est la notification qui part à tout le serveur. Et bien sûr, moi, je dis at everyone pour pas que ça envoie la notif à tout le monde. J'aimerais bien l'utiliser plus parce que j'utilise quasiment jamais, enfin genre deux fois par an, pour informer les gens de trucs qu'ils ne suivent pas forcément tous les jours sur le serveur. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a un channel comme ça où on parle de ces sujets. Et il y a You qui vient et dit « Oh non, le at everyone, moi j'aime pas, tous les serveurs qu'il utilise, je les bloque parce que c'est super chiant. » Évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait « at » avec le signe « at everyone », donc il ping absolument tout le serveur.
Du coup, il va devoir bloquer ton serveur à cause de lui. Ouais.
C'était extra. On s'est tellement marré. Évidemment, il a fait après pardon. Les gens sont venus parce qu'ils ont vu le ping et ils savaient pas pourquoi, parce qu'il a effacé son message en espérant supprimer les notifications. C'était hyper drôle. On passe de bons moments sur le Discord. Je vous encourage à nous rejoindre et j'envoie un bisou spécial à vous. Il nous a fait bien rire ce jour-là. Il y a deux ou trois jours.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on continue avec le reste de l'actu. Cédric, tu espères, tu pries, tu attends avec impatience l'arrivée de Threads sur en Europe, eh bien, il semblerait que Threads soit en cours d'arrivage, sans doute au mois de décembre. Ce sont les dernières rumeurs. Donc, tu vas peut-être pouvoir quitter. Voilà, on a encore 25
ouais, minutes. En fait, peut-être qu'il n'y aura pas de nazis, du coup. Sans doute, même.
Écoute, a priori, moins.
Il y aura des boomers.
C'est moins grave, on va dire. C'est pénible, mais c'est moins grave.
Alors, réseau social sans nazis.
En tout cas, c'est contre les conditions d'utilisation, tu vois. C'est un plus, je dirais. Et oui, pour qu'on attende l'arrivée, parce qu'on est toujours sur, bien sûr, Blue Sky et sur Mastodon et tout ça, Threads a quand même un taux d'utilisation qui semble le plus important là où il est lancé. Donc, à propos...
Forcément, l'adosser à Instagram, c'était se garantir un certain succès de départ, en fait, en tout cas, une masse d'utilisateurs critiques.
L'abonnement pour Meta est sous le feu des de tout le monde, j'allais dire pas le feu des projecteurs, mais oui, de la justice, puisque non seulement une organisation a intenté un procès à Meta pour cet abonnement payant, mais aujourd'hui, il y a plusieurs organisations différentes qui sont en train d'intenter le même procès. On en parlait il y a quelques temps en disant que l'abonnement à Meta était un moyen pour eux de respecter la législation européenne qui dit qu'ils ne peuvent pas collecter les informations privées des utilisateurs, ou au moins qu'ils doivent offrir une option pour utiliser le service sans collecte d'informations privées. La loi est floue sur la manière d'implémenter cette option. Meta a choisi de l'implémenter de manière payante, et on ne le signale pas assez, il y a beaucoup de services de publication qui font la même chose, qui vous donnent le choix quand vous voulez lire un article, par exemple, sur un journal. Soit vous acceptez les pubs personnalisées, donc le dépôt de cookies tiers, soit vous pouvez vous abonner à la publication. Eh bien, cette méthode ne plaît pas à différents organismes qui intentent un procès. Ben, c'est à la justice de trancher et qui va devoir travailler pour décider si oui ou non Meta a le droit de faire payer par abonnement le fait de ne pas vouloir accorder l'autorisation d'utiliser les informations personnelles. C'est en Europe que ça se...
Ah, oui,
c'est en Europe, bien sûr, puisque c'est la loi européenne. Il y a quand même un petit « be careful what you ask for » là-dedans, puisqu'on parle anglais. Faites attention à ce que vous demandez, parce que si la justice estime qu'on n'a pas le droit de faire payer pour fournir le service complet, parce que dans la loi, il est dit qu'on doit avoir accès au service complet, ça veut dire que je ne vois pas comment Le Figaro ou Le Monde vont pouvoir continuer à demander un abonnement. Et du coup, on veut imposer, on veut imposer à une publication de fournir le contenu avec pub personnalisée ou sans utilisation des données personnelles, mais le même contenu. Donc, on veut imposer aux publications de fournir le service avec ou sans utilisation des données personnelles pour la pub. Ça me paraît compliqué. C'est vraiment dire aux gens, vous devez le fournir gratuitement ou presque gratuitement. Alors, peut-être que si le net s'était construit sur un modèle de pub qui ne serait pas personnalisé, moi, je pense que ça fonctionne moins parce que ça mène à moins de personnes intéressées qui vont ensuite cliquer et aller voir le service qui fait de la pub. Donc, ça rapporte moins d'argent, donc ça en génère moins pour les services et les sites. Mais donc, le fait de l'imposer... Alors, peut-être que si on avait construit dès le début, ça aurait été possible. Je ne sais pas, moi, je ne crois pas. Mais dans la forme du net actuel, ça me paraît compliqué, moi, cette histoire. Mais peut-être que c'est un peu...
Ouais, en fait, la seule solution serait finalement d'enlever la pub personnalisée. Quoi.
Ah bah c'est ça, voilà. C'est ça.
Voilà. Malheureusement, en fait, je vois pas comment on peut arriver à fournir un service gratuitement, alors que de l'autre côté, on gagne énormément d'argent avec de la pub perso. Il y aurait un entre-deux qui serait pub pas perso, mais semi-payant, semi-gratuit. Enfin, c'est hyper compliqué. Franchement, moi, je leur laisse. Par contre, je vais suivre ça attentivement parce que c'est vraiment des business models qui sont en train de prendre un risque énorme là, en fait. Parce que si cette loi passe, et comme tu disais, Patrick, les journaux, les grands journaux qui... propose des articles gratuits contre de la pub personnalisée versus tu payes 2 euros et tu as droit de voir ton article, ça risque de poser un vrai problème. Mais tu vois, imagine toi, Patrick, aujourd'hui, tu ne fais pas de pub personnalisée dans le podcast. Mais si la pub de ton flux podcast était personnalisée, en fait, tu tomberais sous ce truc-là.
Où, ah, complètement, gros, oui.
Une version sans pub. Enfin, voilà, en fait, ça a un vrai impact même sur les producteurs indépendants, sur les YouTubeurs, etc., quoi.
Effectivement, la pub n'est pas personnalisée au-delà de la géolocalisation du pays de l'IP, ce qui est complètement... Enfin, ce n'est pas personnalisé à un niveau problématique. On nous dit dans la chatroom, ou alors, pas de pub et service payant ou rien. Mais le problème, c'est que ce type de solution ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te mettre un service gratuit avec un contenu équivalent. On parle d'information, là, et l'information, c'est le truc qui est abondant sur Internet. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être faire un after show où je parle du défaitisme et du catastrophisme dans la tech, où on ne parle que des trucs mauvais, le doomerism, que je vais évoquer dans un instant également. Et pourquoi est-ce que Patrick, moi, je ne parle pas de trucs positifs dans la tech? Eh bien, ma réponse vous surprendra peut-être. Et pour avoir la réponse, il faut être abonné. Ça sera l'after show qui est au Patriote seulement. Mais c'est un sujet intéressant. Pourquoi est-ce que moi, qui me plains qu'on est trop négatif, est-ce que je ne parlerai pas de trucs positifs? Je crois que je le fais, mais peut-être d'une manière surprenante.
Bah oui.
Le Canada et Google sont arrivés à un accord. Alors ça, c'est un truc un petit peu... peut-être un petit peu surprenant. Vous vous souvenez que le Canada a imposé, toujours dans cette même ambiance, imposé aux services en ligne de contribuer aux publications canadiennes pour les contenus de ces publications qu'elles utilisaient, genre Facebook, Google. Si vous mettez un titre d'article, eh ben, vous devez payer le journal. Meta a dit, bah, du coup, plus de publications sur Meta, enfin sur Facebook. Donc, on ne peut plus mettre de lien. Démerdez-vous. Google avait également dit ça. Et Google a négocié avec le gouvernement canadien. Ils ont trouvé un accord. En gros, ils vont payer 100 millions de dollars par an, à peu près, aux différentes publications. Et voilà, roule ma poule, comme ça s'est passé partout ailleurs, comme quoi le Canada a eu raison de forcer. On se disait à un moment, non, ils vont call leur bluff, ils vont pas cligner des yeux chez Google et Meta. Bah, Google, en tout cas, a cligné des yeux. Ils ont dit, OK, c'est bon, allez, prenez 100 millions par an, arrêtez de nous emmerder, c'est bon, voilà. Et du coup, on peut remettre des... Ils peuvent utiliser les liens. Ils ont eu raison de pousser, au final.
Oui, bah oui. Bah, bien sûr.
Oui. Corben, quand est-ce que tu fais une grève de Google pour obtenir 100 millions?
Oh, bah jamais, hein. Moi, tu sais, je fais pas de grève ni Twitter ni de Google.
Tu es partout.
Après, bon, c'est sûr que pour 100 millions, why not, hein, mais...
Ça peut se discuter.
Pour 100 millions, je veux bien faire la grève. Moi aussi.
Ça se discute, quoi. On peut commencer à négocier.
83 médias espagnols ont lancé un procès contre Meta pour cause de... compétition injuste, comme on dit en français, unfair competition. Injuste, déloyale, merci.
Concurrence déloyale.
Exactement, merci Cédric. Et je crois que j'ai compris la nature du truc, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que Meta a tellement de données sur leurs utilisateurs qu'ils peuvent leur servir du contenu beaucoup plus ciblé et donc beaucoup plus intéressant pour leurs utilisateurs que les médias espagnols traditionnels. Et c'est ça qu'ils leur reprochent, si j'ai bien compris. Donc, j'ai un petit peu genre... Mais donc, vous reprochez à Meta d'avoir un produit qui est meilleur que le vôtre, qui est plus ciblé ou... C'est quoi l'idée? C'est qu'ils ont trop de données, donc vous voudriez qu'ils aient moins de données? Quel est le... Je comprends pas bien la logique du truc, mais en tout cas, ils ont lancé un procès. Ils demandent 600 millions de dollars.
Eh ben.
Ça me paraît déjà un peu plus chaud, parce que l'argumentation... Alors, peut-être que j'ai pas bien compris l'argumentation légale, hein, c'est possible. Mais ça me paraît un peu plus chaud quand même, on suivra ça. Moi, je vais faire un procès à Corben qui fait des articles plus intéressants que mes podcasts. Ça me paraît être de la concurrence déloyale. Ton produit est meilleur que le mien.
Il est systématique, en plus, il utilise de l'IA, donc du coup, voilà, c'est déloyal.
Non, de ce que je comprends, c'est vraiment ça le process. C'est il a un produit qui est meilleur que le mien.
Ils vont se faire rejeter, quoi. Enfin, ils vont se faire jeter.
Débouté.
Oui, alors après, il y a quand même, il y a et puis il y a le fait que, alors je suis d'accord avec vous, mais avec une nuance près, c'est que je pense qu'ils adressent, ils doivent adresser soit les mêmes marchés, soit les mêmes, les mêmes clients, etc. Ouais. Et en fait, il y en a un qui a un outil qui permet d'eux, alors que l'autre n'a pas accès à cet outil parce que Meta le garde que pour lui, par exemple, tu vois.
Possible.
Il pourrait l'ouvrir et ça distord. En gros, le périmètre de jeu, c'est Facebook, imaginons. Et en fait, Facebook détient le périmètre, les règles, la taille du terrain, etc.
Ouais, c'est une plateforme sur laquelle Facebook, c'est leur propre plateforme, un petit peu comme... effectivement.
Et en même temps, du coup, c'est un peu compliqué.
Je comprends, c'est peut-être logique, oui, effectivement. Bon, merci Cédric d'expliquer un petit peu plus la chose. Il doit y avoir quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Bon, donc Corben, je ne pourrai pas te faire de procès pour ça, puisqu'on joue dans des cours différentes. Amazon est également évidemment en train de développer des moteurs d'IA, hein, on s'en doutait, sauf que selon certains documents internes, il semblerait que la plateforme Q, décidément Q est à la mode, la plateforme Q ne soit pas aussi performante qu'il l'espérait et qui a des hallucinations sévères selon les documents internes et qui fait fuiter des données confidentielles comme par exemple les localisations des centres de données de AWS. Bon, donc le chatbot Q, il n'y est pas encore. Et pareil, Gemini, le chatbot de Google, a été retardé visiblement de quelques semaines parce qu'il ne réussit pas à gérer les requêtes dans d'autres langues que l'anglais. Bon, tout ça, c'est notable parce que c'est Amazon et Google et les GAFAM qui se sont fait prendre de court par l'IA générative et c'est encore une confirmation, mais... Bon, on est à quelques mois de différence. Dans 5 ans, je ne sais pas si c'est de ça qu'on se souviendra. Mais c'est notable quand même. Et puis, une étude intéressante. En Angleterre, spécifiquement, il y a une étude qui a montré que les jeunes de 13 à 17 ans, donc vraiment, on parle, alors eux, ils l'appellent la Gen Z, je croyais que c'était autre chose, la Gen Z. Bref, de 13 à 17 ans, utilisent l'IA à 79%, c'est-à-dire que 79% des utilisateurs d'Internet de 13 à 17 ans utilisent l'IA, contre seulement 31% des gens qui ont plus de 16 ans. Donc, les très jeunes ont déjà commencé à utiliser l'IA tout le temps, pour tout. Et on est, j'ai l'impression, déjà en train de rentrer, la vitesse est folle, déjà en train de rentrer dans une génération qui, comme la génération qui est née avec Internet, qui savait utiliser, enfin je ne sais pas, les smartphones par exemple, ils savent tous utiliser les trucs, les écrans tactiles, et bien là, on est déjà en train d'entrer dans la génération de l'IA, quoi. Et c'est... Tu le confirmes, Corben ?
Moi je vois mes enfants, surtout le grand, le petit il s'en fout un peu, mais le grand il l'utilise tout le temps. Il a codé un truc en JS, il n'avait jamais fait de JS de sa vie, mais il l'a fait avec lui, il est tout fier de lui. Donc tu vois,
a quel âge ?
Moi je suis comme lui, il a 12 ans.
Pile dans la catégorie quoi.
Ouais, donc, mais voilà, après, moi c'est pareil, hein, j'utilise ça tous les jours, tout le temps. Donc voilà, c'est...
C'est toi qui lui as montré comment ça marche ?
Ouais, c'est moi. Enfin, je lui ai montré, tu sais, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Je lui ai montré le truc, ouais. Quand ça a démarré, ChatGPT, il y a plus d'un an, et puis Midjourney, tous ces trucs-là, j'ai fait des démos à tout le monde. Et des fois, il demande à ses profs, tu vois, quand par exemple, il y a des œuvres, des trucs d'art plastique, des choses comme ça à faire, et il demande à ses profs s'il peut utiliser l'IA pour générer tel ou tel truc, ou trouver une idée comme ci, comme ça. Et les profs, ils disent oui. Hein. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Dans certains usages, en tout cas, les profs sont OK pour que l'IA elle fasse des choses aussi dans leur boulot. Quoi.
Et ils disent certains trucs oui, certains trucs non. C'est pas genre ah non, l'IA c'est mal, n'utilise pas.
Ouais, là je parlais d'art plastique, tu vois. C'est pas un devoir en français. Hein, ouais. C'est pas des devoirs. C'est juste est-ce que dans mon devoir d'art plastique, je peux intégrer certaines choses qui ont été générées par IA ? Bah oui, tu peux. Donc voilà.
D'accord, intéressant, intéressant. Donc, voilà, si vous avez besoin. C'est marrant parce que quand c'est arrivé il y a un an, je disais aux gens, il faut vous y intéresser vraiment dans tous les boulots, quel que soit votre boulot, même si vous pensez que ça, vous, ça ne vous touche pas, essayez les outils, jouez avec au moins pour savoir de quoi il s'agit. Là, j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment besoin de le dire. Quoi.
Non. Bah, pour te dire, nous, on fait des ateliers, j'en ai encore un demain d'ailleurs, avec des collégiens, où on leur apprend à créer des applications no-code ou même low-code, avec de l'IA, etc., en utilisant les API de ChatGPT et compagnie. Ils partent avec leur petite application, ils sont trop contents, donc ils ont leur ChatGPT dans la poche, quoi, en gros, avec Bubbleio et des trucs comme ça, tu vois, tu peux faire des petites apps vite fait, en 40 minutes, t'as ton app qui est faite, quoi. Ils sont hyper contents et en fait on se rend compte que ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'ils se familiarisent vachement plus vite avec le process, ça les choque pas, ils sont ils trouvent ça top, enfin tu vois, c'est incroyable en fait l'acceptation du truc, enfin je veux dire
et moi tu vois j'ai l'impression qu'on est dans le même, enfin je sais pas si vous avez fait ça, mais on est vieux maintenant, il y a une époque où tu vois, on discute entre nous, puis on se pose une question. On se dit, ouais, est-ce que, je sais pas, la reine d'Angleterre, si, ça, ça.
Ouais,
et
ça.
En fait, on était à cette période où il y avait des gens qui disaient, bah, je sais pas, ou qui mettaient des hypothèses, et puis d'autres qui sortaient leur ordinateur ou leur téléphone.
Et voilà,
qui
cherchaient sur Wikipédia.
Sur Google, quoi. Ouais, je cherchais sur Google.
Bah, ma femme, Google, elle pose toutes ses questions à Google. Voilà.
Ouais, bah voilà. Et ça, c'est un réflexe que moi, je me souviens bien, je l'avais pas avant, tu vois. Et quand Google est arrivé, etc., au bout d'un moment, je me suis mis à l'avoir parce que, je réfléchissais, je me disais comment je vais trouver la solution. Ah, mais oui, c'est vrai, je peux trouver sur Google. Puis maintenant, c'est une habitude, tu vois. Et en fait, l'IA, je retrouve le même truc, quoi. C'est-à-dire que des fois, je bricole des trucs dans la maison.
Bah, ouais.
Je me gratte la tête, je me dis comment je vais faire, quoi. Et c'est pas un truc que tu trouves sur Google parce que Google, tu lui dis comment tu vas retrouver des vidéos, des trucs, mais tu vas te taper à côté de la plaque. Alors
c'est
que,
ça. Mais en fait, c'est ce qu'a voulu faire Google en quittant leur marché de moteur de recherche pour devenir un moteur de réponse. Et en fait, ils ne réussissent pas bien. Alors, Bard est censé améliorer ça. Mais en fait, ChatGPT, c'est un moteur de réponse, en fait.
Ouais, bah
enfin, ChatGPT et même les autres IA, ce sont des moteurs de réponse. Et c'est ça la grosse différence, c'est que le moteur de recherche, en fait, on fait sa recherche et ensuite... on va chercher dans les 10 premiers résultats ou 5 premiers résultats, la réponse, etc. Là, en fait, on pose une question, on a la réponse.
On a même des suggestions. Parce que
et même
moi, j'ai bricolé il n'y a pas longtemps, j'avais des fuites, des tuyaux, des machins, ça, j'étais trempé des pieds à la tête, et j'étais en train de me dire comment je peux faire pour boucher ces tuyaux, est-ce qu'il faut que j'achète des bouchons en caoutchouc, comment je peux faire, quoi. Je ne savais pas quoi faire, tu vois, ça coulait de partout. Et dans ses suggestions, ChatGPT m'a dit, bah, tu prends un ballon de baudruche, tu le mets autour et tu mets un élastique. J'y ai même pas pensé, tu vois. C'est le truc con. Et ça, j'en avais à la maison des ballons de baudruche. Donc, du coup, j'ai fait ça et ça m'a sauvé la vie. Mais c'est des conneries comme ça. Mais
il y a un autre truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit sur ton fils. Je lui ai dit, ah, et donc, tu lui as expliqué, tu lui as montré les outils d'IA, machin. Tu lui as dit, oui, enfin, ça va vite, tu vois, tu lui montres. Et ce oui, enfin, ça va vite, c'est un autre aspect essentiel de ces nouveaux outils d'IA. C'est que, en particulier les chatbots, il n'y a rien à apprendre. Est-ce que tu sais parler ? Oui, bon, bah, tu sais l'utiliser. Alors, évidemment, j'exagère, hein. Il y a des choses à savoir, des manières d'utiliser. Mais d'une manière générale, ce n'est pas que tu as, je ne sais pas moi, Word avec 40 000 options. C'est juste une interface texte. Tu parles, tu sais déjà l'utiliser. Et si tu sais chatter avec tes potes avec les bulles bleues ouvertes, bah, c'est bon, tu sais déjà.
Moi, ce que j'ai expliqué, c'était, en gros, c'est si tu n'as pas la réponse que tu veux, c'est que tu n'as pas posé la bonne question, quoi. Et c'est pareil avec Google, hein. Si tu fais une requête qui tape à côté, enfin qui est à côté de la plaque, tu n'auras pas les bonnes réponses. Si tu parles avec l'IA, avec ChatGPT, et que tu lui poses la bonne question comme il faut avec tout ce que tu veux dedans, tu auras la bonne réponse. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et si tu ne le fais pas la première fois, c'est pas grave, tu affines au fur et à mesure. Donc, ça se fait.
Il a bien appris que parfois ChatGPT se trompe.
Oui, bah oui, bien sûr.
D'accord. Faut pas lui faire confiance. Il sait.
Non, bah non.
Il est déjà dans l'internet. Il sait que mes enfants vont être malades 2 jours avant moi. Et il se moque de moi en avance. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout pour nos news. J'aurai dans la fameuse newsletter quelques articles en plus, comme une étude du Oxford Internet Institute qui montre que, contrairement aux idées reçues, j'aime bien combattre les idées reçues parfois, il n'y a pas de lien causal établi entre l'émergence du net et la dépression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils n'ont pas réussi à trouver de lien causal. Ils ont fait une étude très sérieuse et ils n'ont pas trouvé de lien causal du tout. Alors que, quand on demande aux gens dans la rue, on se dit « Ah bah oui, les réseaux sociaux, tu surfes sur les réseaux sociaux, t'es déprimé ou t'es énervé systématiquement, beaucoup plus qu'avant. Avant, les réseaux, on était content, on allait au bar. » Ton quoi ?
Parce que l'étude, c'est sur Internet ou c'est sur les réseaux sociaux ?
Alors, les réseaux sociaux à travers l'émergence du net. En fait, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils sont allés voir des pays où Internet était déjà là et ils ont allé voir depuis, ça fait des années, des pays dans lesquels Internet arrivait. Évidemment, Internet est arrivé partout. Donc, ils ont essayé d'étudier est-ce que les gens sont plus déprimés ici ou là. Ils ont dit, bah, écoutez, on n'a pas trouvé de lien causal établi. Ça veut pas, ils précisent, si jamais on veut en savoir plus, il faut que les tenants du net nous donnent plus d'infos, plus de données. Bon, bref, allez voir l'article. Il y a aussi une vidéo excellente de Course Causal. Pourquoi on est déprimé ? Mais je crois que je ne suis pas sûr qu'on soit déprimé. Je suis pas sûr du tout. Bon, après, Covid, tu vois, Ukraine. Et justement, tu vois, les gens qui sont de plus en plus opposés les uns aux autres, cette binarisation, on a tendance à se dire, ah ben, c'est parce que les bulles de filtrage du net. Bien, Course Causal a fait une vidéo hyper intéressante qui détaille les dernières recherches sur le sujet. Elle sera également dans la newsletter, qui dit le contraire. En fait, le problème, c'est que la bulle filtrante, c'est pas Internet. La bulle filtrante, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, on est de manière évolutionnaire, généralement, avec des gens qui nous ressemblent, qui sont plus ou moins d'accord avec nous, tu vois, dans la tribu, dans la famille, dans la... Alors, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec des gens de notre famille, mais d'une manière générale, on est dans la même société, etc. Avec Internet, on a les avis de tout le monde, on est exposé à des avis hyper différents tout le temps, et c'est hyper conflictuel. Et c'est complètement l'opposé de la sagesse populaire traditionnelle qu'on pense tous un petit peu comme évidente. Genre, ah bah oui, c'est les bulles de filtrage du réseau. C'est ça qui fait que... En fait, non. Non, pas du tout. Bref, c'est hyper intéressant. Et il y aura aussi un article sur une réflexion sur le doomerism de l'IA et OpenAI et ce qui s'est passé là-bas. Et justement, le défaitisme et le catastrophisme et l'altruisme efficace et ce qui se passe dans ces cercles-là, comme des choses comme le ex-risk et le e-hack. Vous savez ce que c'est e/hack ? Eh bien, vous le saurez en lisant cet article. C'est l'accélérationnisme de la tech. C'est hyper intéressant. Il arrive à peu près aux mêmes conclusions que j'avais la semaine dernière, mais avec plus de détails. Si vous vous demandez ce que c'est que le ex-risk et le e-hack, eh bien, les liens de la newsletter vous donneront tous les détails sur tout ça. Vraiment, hein, c'est hyper intéressant. Cette vidéo de Course Causal m'a marqué particulièrement. Et c'est toujours intéressant ce qu'ils font, mais celle-là est particulièrement bonne. Donc, newsletter pour tout ça. Et je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. C'était comme toujours passionnant. Merci beaucoup. Où peut-on vous retrouver sur Internet ? Commençons par Corben, qui a un petit blog, je crois.
Eh bien oui, sur Corben.info, et puis sur Twitch aussi, sur la chaîne CorbenFR. Voilà, le lundi, mardi, mercredi, à partir de 14h jusqu'à 16h.
Et jeudi et vendredi alors, tu fais grève ? T'attends les 4h.
Je suis en week-end, le mercredi soir, je suis en week-end.
Mercredi soir, t'es en week-end, très bien. Écoute, ouais, j'approuve ton mode de vie, ton style de vie choisi. Cédric, tu peux te démuter, où te retrouve-t-on sur Internet ?
C'est vrai que je m'étais mute. Il y a des gens qui parlent à côté et tout. On me retrouve sur Internet, sur X et sur Blue Sky, Cédric 2, Lucas, le chiffre 2, Lucas et Luca. Voilà, pour le moment, j'ai plein de projets, je suis en train de préparer plein de trucs, mais j'ai été retardé par plein d'autres choses. Bref, la vie compliquée, mais...
Des projets de l'Internet, sur des trucs sur Internet ?
Ouais.
Tu peux nous donner un petit teaser de quelque chose ?
Juste qu'il y a de la peinture qui est en train d'être faite. Voilà.
Ah, d'accord, très bien, très bien. Un studio en rénovation.
Ouais, c'est ça.
Très curieux. D'accord. Je voulais te poser une question que j'ai oubliée. Ah oui, si tu pouvais, en fait, l'un de tes projets soit de désactiver ce zoom insupportable, en fait, après l'avoir testé, je peux te dire qu'il est pénible. On ne remercie pas Apple, il est assez insupportable.
En fait, le problème, c'est qu'il est hyper loin, et du coup, ça donne un angle immense, et je suis tout petit. Et du coup, je vais juste trouver un moyen d'avancer le pied sur la table.
D'accord, voilà. Très bien. très drôle. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. NotePatrick.com pour les liens vers tout. Et vous avez également les liens dans les notes de l'émission. Donc, vous pouvez aller juste dans les notes de l'émission et aller sur tout ce dont je parle, comme le Discord où on se marre bien, les lives sur Twitch et sur YouTube, le Patreon, la newsletter, tout. Ça marche parfaitement bien et Cédric a réglé son zoom. Nous sommes dans la
modernité. Ouais, j'ai réussi à régler. En fait, il y a incroyable. Un vrai bouton.
Mais oui, il y a un incroyable. Bouton pour ça. C'est fou. Ouais. Merci à vous tous et à vous toutes. On vous fait de gros bisous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.